Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui se passera vraiment en enfer. Parce qu'à vous entendre, tous mes amis y seront déjà. Donc je dois m'attendre à quoi?
Tu vois, t'es bien sali ou pas? Tu peux pas comprendre. Tu te moques d'un truc sacré pour les chrétiens et t'en as rien à foutre.
Ah d'accord, donc c'est encore une histoire de juifs. Ok, parlons des juifs. Qu'est-ce que vous savez sur eux? Pour les types dans votre genre, on dirait presque que c'est des créatures mythologiques. Des monstres. En fait, vous ne savez rien à leur sujet.
C'est juste une cible facile pour vous. Parce que vous avez trop peur de vous remettre en question. Parce que vous avez besoin d'avoir un bouc émissaire à qui reprocher tout ce qui vous arrive. Parce que c'est plus facile que de s'en prendre aux vrais responsables de toutes vos galères. Que ce soit un gouvernement qui n'en a rien à cirer de vous et qui vous a toujours appris à croire le contraire, ou que ce soit vous-même.
Étape 5.
Ça ne peut pas être à cause de vous.
On y est.
Donc, c'est forcément à cause des juifs.
Je m'en occupe.
La seule chose dont vous semblez convaincu,
laisse-moi m'en charger.
C'est que pour être un bon juif, il faut être un juif mort. Et en même temps, vous semblez vous préoccuper de ce que les juifs pensent de vous.
C'est toujours les mêmes rengaines. Les gens disent que le monde est fichu, que tout est horrible, que tout a changé. Ils regardent de travers leur nouveau voisin ou la nouvelle synagogue en ville. Et quand toute la journée tu n'entends que ça, tu pourrais croire qu'on est tellement plein de haine que c'est presque irréversible. Mais je vais vous dire quelque chose, et ça va peut-être vous surprendre. Moi, je crois que les gens ont toujours un bon fond. C'est pour ça qu'ils appellent, parce qu'ils veulent discuter. Ils veulent se sentir écoutés et compris. Au fond, on ne demande tout ce qu'à donner de l'amour. On veut pouvoir dire aux autres que tout ira bien. On veut boire une bière tranquille avec nos proches. Ces types, ils ont juste peur de ne jamais retrouver ça. Moi, je veux croire que nos meilleurs instincts triompheront, mais qu'il faut commencer quelque part. Donc je vous encourage tous à faire ça ce soir. Soyez bons avec les autres parce que nos paroles, nos idées, c'est tout ce qui restera de nous. C'est la seule chose qui compte.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah.
Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 25. Cette semaine, émission Polar, Führer et chassé du nazi. Parce qu'on a la rage, on restera debout, quoi qu'il arrive. La rage d'aller jusqu'au bout, et là, on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Enfin, bref, il est 19h, et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de...
Kenny Arcana.
Exactement, Kenny Arcana, bravo.
Donc, Pour une fois, le blind test.
Nous allons parler ce soir de rage, donc, à l'occasion de la disponibilité sur Amazon Prime depuis une dizaine de jours de Broken Rage, le dernier film en date de Takeshi Kitano et le premier à parvenir officiellement en France depuis son outrage en 2010. Et ensuite, nous parlerons d'une autre sortie sur Amazon Prime, The Order de Justin Kurzel. Et pour parler de ce géoprogramme autour de cette table, il y a bien évidemment de la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Vous l'avez entendu à ma gauche, toujours à ma gauche, il a carrément floré. Bonsoir Thibaut.
Salut Thomas, salut à toutes et à tous.
Alors, vous êtes revenu bronzé, mon cher Thibaut.
Oui, c'est vrai, tu as le teint fort allé.
Eh bien oui, écoute, le privilège d'avoir des vacances et de travailler.
J'irais même jusqu'à dire que comme Alain, tu es fort allé.
Elle est nulle. Et donc,
celle-là.
Vous l'avez entendu, il y a aussi le docteur.
Je voulais absolument sortir, bonsoir.
Ça va?
Oui.
Moins allé que notre camarade Thibaut.
Mais toujours Alain.
Oui, toujours. Et sinon, donc, à la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot.
Bonsoir.
Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne.
Un saut de merde, docteur. Il va jeter un saut de merde en plein fuyeux.
Alors donc, mon cher Thibaut, vous êtes parti dans les anciennes possessions françaises la semaine dernière, donc vous avez loupé un petit peu l'actualité bouillonnante du cinéma, mais avez-vous, mon cher, vu le match du Stanley Football Club de vendredi soir contre Metz?
Reims,
oui.
Bah oui, j'étais au stade.
Ah, moi aussi.
Ah bon?
Oui, tout le monde était au stade, parce que moi j'ai plein de potes qui étaient au stade aussi. Moi.
Bah j'étais avec Jean-Marie.
Ah bah oui, bah, moi j'étais en crédit mutuel, de ce côté.
Ah, mais on aurait dû se bigoter.
Oui, c'est vrai.
Aïe, 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 aïe.
Oui, j'avais mon c'est mon fils qui était au match.
Ah bah dis donc,
avec sa maman. Voilà. Et j'ai un pote aussi qui était au match avec son papa.
Mais tout le monde était là.
Hein. Bah, apparemment, sauf pas moi.
Bah, il y avait du monde malgré le temps maussade, un match un peu mou, mais et une bonne entame.
Mais oui, bon, mais
3 points.
Une bonne ambiance.
On prend les 3 points, exactement, voilà, un bon esprit. Donc voilà, enfin des bonnes nouvelles dans ce terrible monde. Sinon, nous vous rappelons que dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs amis du cinéma est mort, pardon, le 2 mars prochain à 20h15, donc en préambule de la sortie de son dernier film. Oui, tiens, ça marche pas.
On a plus de son ou.
Non, j'ai un problème, il y a des faux contacts.
Ouais.
Bon, autant pour nous, c'est peut-être les écouteurs.
C'est ça, c'est peut-être les casques. Donc, bref, je disais, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, donc ce sera Snowpiercer de Bong Joon-ho en préambule de la sortie de son prochain film, Mickey 17, qui sort le 15 mars ou quelque chose dans le genre. Cinémaniacs, la semaine prochaine, ce sera Un baiser, s'il vous plaît, de Emmanuel Mouret. Donc voilà, qui passera. Je n'ai jamais vu parce que je ne suis pas très client des films de Emmanuel Mouret, mais bon, sait-on jamais. Sinon, le ciné-tambour, je devais faire ça aujourd'hui, j'ai totalement oublié de le noter, donc je ne sais absolument pas ce qui se passera. Voilà, excusez-moi, c'est pas très pro tout ça.
Ah, ça sent la rentrée.
Ça sent la rentrée, exactement, voilà, c'est ça, il y avait des choses à faire. Sinon, à l'Arvor, demain, mercredi 26, c'est ça. Donc, passera Blur to the End, documentaire consacré à Blur et la production de son dernier album et la tournée qui s'en est suivie. The Story of Darren, je crois, leur album qui est sorti l'année dernière. Le doc n'est pas super, super passionnant quand même, hein, faut pas se le cacher. Voilà. Moi, j'ai vu. Hop là, hop.
Voilà, voilà, mais il n'y a que des pains. Ah mon Dieu, on fait plein de pains dans le studio.
Et donc voilà, qui n'est pas foncièrement passionnant, à part juste de voir, des vieux de 50 ans qui se reforment et qui font leur truc, mais voilà.
J'ai arrêté à Think Tank, Blur.
Non, mais en plus, l'album est pas mal, hein, mais le documentaire n'a pas vraiment, vraiment trop d'intérêt. À part de voir voilà, ces vieux grigous qui se tombent dans les bras, Graham Coxon, tout ça, ils ont de l'argent. Ils
C'était bien avant.
Non, même pas. Mais tu vois, c'est une belle réflexion métaphysique sur la vie et sur et compagnie. Sinon, au niveau des sorties nationales, il y a film d'animation, L'Attaque des Titans, c'est pas un...
C'est un manga.
C'est un manga. Enfin,
c'est un manga, ouais.
Et c'était une série aussi, non?
Ben, ça a été un animé, ouais, une série animée aussi, ouais.
Jamais regardé.
Ouais.
C'est des trucs avec des gros monstres ou des gros robots,
ouais, c'est ça. C'est avec des espèces de mondes où il y a des titans, je sais plus, moi j'ai jamais lu le manga, mais avec des titans qui viennent envahir, voilà, et puis il y a tout un truc.
C'est Pacific Rim, quoi.
Avec un côté un peu, pas rétro-futuriste, mais ce genre de truc avec des villes encerclées où les gens peuvent pas vraiment sortir. Enfin, je sais, en fait, j'en sais rien. J'ai jamais lu. J'en sais foutre rien. C'est mes filleuls qui lisent ça.
C'est une sorte de dystopie dans un futur. En fait, c'est assez paradoxal parce que c'est censé se passer dans le futur. Mais sur certains points, on a plus l'impression d'être au Moyen-Âge parce qu'en fait, il y a la moitié de la Terre qui a été mangée par les Titans. Qui sont des êtres gigantesques. Et en fait, il y a des murs qui protègent la ville.
Ah, c'est bien ça, une sorte de mur. Voilà.
C'est ça. Et en fait, il y a un des titans qui a détruit le mur, qui est beaucoup plus gros que les autres. Et ça, c'est le commencement de l'histoire. Et en fait, on se pose la question de pourquoi ce titan est plus gros que les autres, plus plein d'autres questions.
Et ça dure sur 40 tomes.
Et je crois, oui.
Je crois qu'il y a pas mal de tomes.
J'en ai lu un petit peu, mais oui, c'est assez long. C'est assez violent. C'est sympa.
Voilà.
Ça marche très bien en tout cas.
Ok.
Voilà, ça fait partie des mangas qui marchent très bien.
J'aime bien regarder. Merci Emma. Dans un tout autre genre, il y a A Bicyclette, une belle comédie douce amère.
Biographie de Bourville ?
Non, avec Pascal ou Philippe Prébaud, je ne sais plus, qui est l'ex-mari de Romane Boringer et qu'ils ont fait plein de films ensemble. Et là, il part avec son pote sur la route à vélo pour je ne sais pas. L'abondance m'a désintéressé très vite.
Oui, non.
Voilà, sinon il y a Real Pain, un vrai pain de Jesse Eisenberg avec lui-même et puis Karen Culkin qui a ramassé quelques récompenses au dernier BAFTA, pareil sur des gens qui font genre leur crise de la quarantaine et qui marchent à pied. Voilà, pour un beau film humain et délicat.
Un peu truc Alexander Payne.
C'est ça, je pense, ouais. Sinon, il y a le nouveau film de Luca Guadagnino, Queer, basé sur le bouquin de William Burroughs.
Ah oui, nous en parlerons la semaine prochaine. Il va falloir qu'on se fasse ça.
Il va falloir se taper ça, effectivement, docteur.
Donc voilà, j'ai un peu peur, hein, je dois dire, moi. Mmh. J'ai pas vu encore, hein, mais j'ai un peu peur. Tu l'as vu, toi ?
Oui, j'ai vu, oui.
J'ai raison d'avoir peur ou...
N'anticipons pas. J'ai mon devoir de réserve.
Oui, je le respecte.
Sinon, il y a aussi une comédie française de Judith Davis, Bonjour l'asile. On l'avait déjà traité de son premier film ici, Judith Davis, dont j'ai oublié le nom, mais c'était pas trop mal. C'est pas de la comédie poète-poète, hein, c'est plus de la comédie un peu sociale, absurde.
J'ai pas dû voir ça.
C'était, je crois que tout ce qu'il me restera de la Révolution.
Oui, c'était pas mal ça.
Oui, c'était pas mal.
Donc, ça se regardait. Oui, j'ai vu en fait.
Et sinon, dans un tout autre genre, donc il y a un documentaire biographique sur Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin, qui sort demain, je ne sais pas, à Rennes peut-être, vu que le documentaire sur Brian Jones et les Rolling Stones est passé à la revoir, donc pourquoi pas celui-là, ça serait plutôt pas mal. Voilà, on va passer à la section critique de cette émission. On va partir au Japon avec une rage brisée. Godard sur Syllab, et donc c'était The Eyes avec The Two Timing Touch and Broken Bones, titre qui convient parfaitement donc au dernier long métrage en date de Takeshi Kitano, Broken Rage, qui est sorti il y a une dizaine de jours sur Amazon Prime. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est officiellement le premier film de Takeshi Kitano qui sort entre guillemets en France depuis son outrage, le premier outrage qui était sorti en salle en France en 2010, et les deux suites n'étaient pas sorties, je crois, officiellement en France, peut-être en direct ou vidéo, mais bien plus tard. Et son dernier film avant Broken Rage, donc Kubi, qui est sorti au Japon il y a 2 ans, qui est une genre de reprise du Shambara, n'est pas du tout sorti en France encore pour le moment. Et donc Broken Rage, bien, de quoi ça parle? Et bien, ça parle de Takeshi Kitano, tout simplement, comme Kitano l'a souvent fait dans ses films. Il met en scène ses deux facettes, puisque si à l'international il est plutôt connu comme étant l'auteur de films enragés et violents comme Sonatine ou Violent Cop, ou quelques films un peu plus, on va dire, entre guillemets, douce amère comme Dodge, je sais pas, ou bien Un Habit. Il y a aussi
L'été de Kikuriro, qui est un excellent film pour les enfants.
Il y a aussi, il est notamment, pas que, mais beaucoup connu au Japon en tant que amuseur public, qui serait un genre de mélange entre la gaffe et puis Cyril Hanouna, qui se met des nouilles dans le slip, qui va se battre avec des poissons sur des plateaux de télé. Et...
qui est spécialisé dans l'humiliation.
L'humiliation,
mais vraiment. Qui est aussi la spécialité de son duo comique, en fait, The
avec
Two Beats.
Avec Beat Kiyoshi.
Voilà, qu'il a fait, qu'il relate dans sa fameuse autobiographie qui est très cool, qui s'appelle Asakusa Kid, et qui, je crois d'ailleurs, est devenu un film.
Ah oui.
Oui, je crois qu'il y a un film que j'ai pas vu encore. Mais ils ont fait un film sur la jeunesse de Kitano, donc je serais assez curieux de voir ça.
Et donc voilà. Et donc Kitano a régulièrement mis en scène dans ses films, on va dire, sa double persona ou sa double personnalité. Et on va revenir, de toute façon, sur la carrière de Keaton de manière générale. Et, mais dans ce film-là, donc Broken Ridge, qui est un film très court, hein, qui fait 1h06. 1h06, en fait, il nous raconte deux fois la même histoire. Une fois de manière, on va dire, sérieuse, en mode vrai polar. Et la deuxième, en mode comédie débile. Donc, pur projet, on va dire, vaniteux et un peu par-dessus la jambe parfois, on pourrait le dire.
C'est-à-dire carrément.
Il est quand même à la fois très sympathique, mais en même temps.
Il a pris l'argent de Tissot, il a pris l'argent d'Amazon. Très et relâché. Puis c'est tout, quoi.
Donc, d'autant que c'est une histoire assez simple d'un tueur à gages qui est mis en porte-à-faux par la police et qui doit collaborer avec eux pour arrêter donc, un gros dealer
une bande de trafiquants
de drogue.
Voilà, ouais.
Une bande de trafiquants, une bande de sales voyous yakuza violents. Donc, truc assez classique que Kitano aura traité déjà. Plusieurs fois au cours de sa filmographie, que donc là encore il retraite, mais donc sur ces deux modes où lui il joue le rôle principal, ce vieux tueur à gages qui est obligé de collaborer avec la police et donc mêle ces deux aspects, la violence et la débilité. Docteur.
Alors, que dire je pense que si vous connaissez pas Kitano et que vous commencez par ce film là, ça risque de poser un problème.
Ça va pas trop vous encourager.
Parce que c'est quand même assez déconcertant si on connaît pas trop le bonhomme. Parce qu'effectivement, c'est le film sans doute où la réunion en fait effectivement des deux personnalités ou enfin des deux personnages de sa figure publique sont véritablement non seulement réunis mais mis en regard l'une de l'autre. Donc effectivement projet assez vain d'une certaine manière.
Vaniteux.
Alors vaniteux à partir du moment où Kitano a quand même joué beaucoup les rôles principaux de ses films. Je pense que la question de l'ego va de pair, oui. Comme souvent chez les auteurs et réalisateurs. Mais moi j'ai toujours beaucoup aimé Kitano en tant que corps de cinéma. Moi j'ai toujours trouvé que la fixité, notamment à partir depuis son accident de, bon, c'est pas grâce à son accident de moto, mais depuis son accident de moto à la fin des années 90. Je trouve que à la fois la fixité de son regard et cette espèce de démarche un peu arquée qui le met dans la grande famille de ce que j'appelle les acteurs claudiquants, aux côtés de James Caan, qui a une démarche aussi qui est très très spécifique. Et moi je sais que c'est un corps que j'aime beaucoup regarder et ça me faisait plaisir de le voir parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu justement. Et
bon, depuis Ghost in the Shell,
exactement. Évidemment il a pris un coup de vieux. Mais c'est quand même moi j'ai trouvé ça assez touchant de le retrouver. Alors après sur le film lui-même. C'est à la fois complètement vain et en même temps c'est comme souvent chez Kitano plus intelligent qu'il n'y paraît. Certes, la partie comédie débile est profondément débile.
Avec des gens qui tombent.
Avec des gens qui tombent, des chaises musicales,
des
chaises musicales débiles, des espèces de personnages qui sortent de nulle part, comme cette espèce de petit bonhomme qui sort d'une valise et qu'on retrouve en flic au bout d'un moment et qui gueule, avec un côté presque manga justement à un certain moment, après un côté presque animé, enfin du burlesque, du gag, des gags grossiers,
du pipi caca,
du comique de situation, enfin il y a vraiment tout. Et alors c'est assez intéressant dans la mesure où, alors moi je trouve que voilà, premier intérêt du film pour moi c'est que c'est pour moi presque un exercice de style autour de comment est-ce qu'on peut aller à l'os de quelque chose, d'une histoire. Côté Yakuza, bah, il a tellement raconté cette histoire-là qu'il n'a même plus besoin de faire un film d'une heure et demie. En une demi-heure, son histoire est tient. C'est un film de Yakuza de Kitano. Donc il y a presque une espèce de d'épure de voir jusqu'à où je peux épurer en fait mon histoire. Le type d'histoire que je raconte. Et finalement, en fait, il se passe quand même pas mal de trucs dans cette demi-heure de film. Il y a quand même pas mal de changements de camp, de machin, de trucs.
Ça pourrait faire largement un film d'une heure.
Carrément, tu pourrais le gonfler en un film d'une heure et demie. Mais je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il fait avec en une demi-heure. C'est-à-dire, c'est presque une espèce de précipité de tous ces films de Yakuza. Et côté comédie débile, là, c'est plus une espèce de pot-pourri. C'est-à-dire qu'en fait, il met tous les types de comiques qu'il aime bien. Sans se poser la question de les hiérarchiser, sans se poser la question de savoir d'ailleurs si ça s'enchaîne bien les uns avec les autres, il n'y en a rien à cirer. Mais c'est une espèce de. Voilà, il se fait très plaisir, d'ailleurs ça se voit dans les scènes, dans la partie comédie, je t'ai dit, il y a au moins deux plans où moi je vois les acteurs en arrière-plan qui se marrent pour de vrai, et je vois bien que ce n'est pas du chiquet qui se marre pour de vrai parce que c'est trop débile ce qu'ils sont en train de jouer. Et il y a cette espèce de nivellement en fait volontaire et. On sent bien une espèce de plaisir totalement personnel et donc il a rien à foutre qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. Il en a tellement rien à foutre qu'il fait des bouches-trous dans le film. Donc il y a deux moments
où en fait c'est des textos. Mmh. Il imagine les réactions des gens qui vont voir son film et qui comprennent rien ce qu'ils sont en train de regarder, quoi.
Il trouve qu'il a vieilli.
Ça c'est plutôt bien. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien. C'est hyper fastoche, c'est hyper paresseux, et en même temps, ça reste hyper sympa. Et voilà, deuxième chose, moi, que je voulais sur ce film-là, je trouve qu'il y a aussi un autre aspect qui, moi, je trouve m'a intéressé, c'est justement la question de la variation sur le thème. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il reprend les scènes vraiment plan par plan, d'autres moments, c'est pas tout à fait le cas. Et moi, je trouve que c'est vachement intéressant ce qu'il fait sur comment est-ce qu'il filme, quelle variation il va opérer à l'intérieur, justement, en fonction du genre. Et comment est-ce que certaines scènes... par exemple, tu vois, il y a un moment, au début du film des Averties Sérieuses, il monte les escaliers pour rentrer chez lui, et comment dire, il est obligé de s'accrocher à la rampe. Et là, moi, tout spectateur, je me suis dit, dans un premier temps, je me suis dit, Kitano, t'as un peu vieilli. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, est-ce que tu serais pas en train de me la jouer avec Clint Eastwood dans La Mule ?
De faire croire qu'il est vieux.
Et effectivement, deuxième itération, ce truc de il risque de tomber, qui n'arrive pas dans le premier, devient un gag dans le second. Et je trouve que c'est à la fois. C'est à la fois fastoche comme
film.
C'est roublard, exactement. Mais le truc, c'est que c'est compliqué. Alors moi, j'aime beaucoup Kitano, hein, donc je ne suis pas très objectif non plus, mais je trouve que Kitano est toujours suffisamment intelligent pour que même sa roublardise soit intéressante à regarder. Et pour moi, ce film-là, moi, je le mets dans la même catégorie que Takeshi's, Hell to the Filmmaker, Getting Annie, c'est-à-dire les films mal aimés, en fait, du réalisateur.
Bah, qui sont vraiment sa veine un peu...
Ouais.
Méta débilos, quoi.
Ouais, et ça vène un peu anarcho, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose pour moi, il y aura toujours quelque chose d'assez subversif dans. Même le fait de prendre le pognon d'Amazon et de livrer ça, il y a, dans le foutage de gueule, il y a une espèce de...
Vous n'aviez pas un film plus long, non.
Non, il y a une espèce de truc anarcho, quoi. Je trouve qu'il est, moi, je trouvais assez plaisant et qui est assez rare aujourd'hui au cinéma, d'avoir cette espèce de subversion.
Margot.
Moi j'ai trouvé le film assez intéressant dans le sens où ce que j'aime bien dans ce genre de film, c'est que quand ils sont rendus ridicules, ils sont presque plus réalistes, dans le sens où il y a tout qui se passe bien dans la première partie, tout est nickel, tout est propre, presque trop propre, et c'est assez attendu. Et au moment où il y a le comique qui ressort, et ben en fait on se dit mais oui, mais en fait ça pourrait tellement arriver à tout le monde, où il entre dans le café, il y a trop de monde, du coup il n'arrive pas à s'asseoir, ou alors il s'assoit sur la mauvaise chaise, elle est cassée. Enfin, c'est des choses qui sont assez touchantes, je trouve, quelque part, parce que on s'y attend pas, donc on trouve ça drôle, et en même temps on se dit mais en fait pourquoi le mafieux qui travaille avec la police, il serait forcément parfait en fait. Moi, c'est un regard que je trouve assez intéressant là-dessus.
Je suis complètement d'accord, parce qu'en fait, ça montre qu'est-ce qui se passe en fait si on prend le même personnage et qu'on en fait un affreux maladroit, quoi. Et moi, j'aime beaucoup la scène de la noyade où il va noyer un chef mafieux. Et là, justement, c'est une scène où en fait, plan pour plan, quoi. C'est vraiment et en fait, au bout d'un moment, t'en viens à te demander, tu te dis à quel moment ça va déraper. Et en fait, tu deviens en fait vachement conscient en fait du découpage. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Du coup, ça en fait quelque chose d'assez méta. Si tu deviens, c'est-à-dire que tu n'attends pas en fait des choses dans l'histoire, tu attends quelque chose dans le film, en fait. Et tu attends, en fait, tu te dis, OK, ça a fonctionné comme ça avant. Ah, là, ça y est, ça commence à déraper. Qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, effectivement, l'irruption de la comédie amène une surprise qui, effectivement, était totalement absente de la première partie, qui était justement du Kitano vraiment très convenu, mais, à mon avis, volontairement convenu.
Oui, juste pour ajouter à ce que vous venez de dire, moi, en effet, quand j'ai vu le film et tu as souligné l'analogie, moi j'ai pensé à Clint Eastwood immédiatement, parce que ce qui est intéressant, c'est que même dans la partie polar, en effet, elle est convenue, en effet, elle est très sérieuse, trop sérieuse, comme tu le dis, Margot. Mais en même temps, je trouve que les gestes sont plus lents, la démarche est moins habile, même quand il... Quand il fuit, enfin, c'est le côté...
Il y a une lourdeur.
Il y a une espèce de lourdeur dans le corps. Et du coup, ce corps qui se transforme en corps comique, à la fin, mais un corps comique, on va dire, teinté de maladresse, vraiment hyper maladroit, je trouve qu'il y avait quelque chose sur ce corps-là qu'on a l'habitude de voir où c'était un corps, voilà, très, c'était un corps puissant. Le corps de Takeshi Kitano est un corps puissant, même que ce soit dans ses réalisations. Quand,
Ou quand il fait l'acteur,
par exemple, dans
Battle Royale.
Dans Battle Royale, voilà, merci. Le titre m'échappait. Donc ça, je trouve
Dans Furio, hein, même, hein, oui. Tu regardes. Hein.
Donc moi, je trouve que sa réflexion sur son corps, sur son corps comique, sur son corps sérieux, je trouve que voilà, le projet s'emboîte hyper bien. Mais je suis un petit peu déçu dans le sens où je pense que son film en chant contre chant, je pense qu'il aurait pu rajouter un tiers chant sur sa persona, comme tu le disais en intro, sa persona douce amère. Parce que autant on connaît le Kitano film de Yakuza.
Une troisième partie un peu plus poétique, justement.
Et ben la partie
la partie
de l'été de Kikujiro, la partie touchante
Achille et la tortue,
Sonatine à la plage.
Alors Sonatine, c'est un film un peu bancal, oui, parce que bancal,
mais comme Achille et la tortue, où tu trouves un peu de débilité aussi, hein, dans Achille et la tortue.
Mais il y a son côté débile qui est franchement majoritairement une figure télévisuelle, son film de Yakuza, donc ça. Je pense tous ceux qui sont intéressés par Takeshi Kitano et le cinéma japonais contemporain le savent.
Il manque la partie Senatsu aussi, Kikujiro, voilà, Happy Together.
Tout ça. Donc ça, c'est pas que ça me. Je pense qu'il aurait pu pousser la réflexion un petit peu plus loin, mais comme tu le dis, est-ce qu'il a pas voulu aller à l'épure pour faire un énorme fuck à Amazon? Voilà, la question se pose.
Je me pose un peu la question.
En fait, ça aurait fait du coup un film de 1h30. Qui se tenait, et en fait là on avait un espèce de film somme sur ce qu'est Takeshi Kitano en tant que réalisateur et en tant qu'acteur et en tant que personnage public, personnage télévisuel.
Ouais, parce qu'il a quand même un statut assez étrange au Japon du fait de ce côté
Bah nous c'était Kids Return, moi je me souviens de la sortie de
pas j'ai dit Happy Together, c'est Kids Return ce que je voulais dire.
C'est quand Kids Return et Hanabi sont sortis, surtout Hanabi, il me semble que quand Hanabi était sorti, c'était vraiment
C'était Lion d'argent ou
en Occident à l'époque il y a une.
Puis même après il y a Senatsu aussi qui est un vieux film quand même qui était ressorti en France.
Ouais, mais ça c'est la période de grâce de Kitano en Europe qui s'est arrêtée avec Takeshi's en fait. Qui s'est arrêté avec Takeshi's, parce que Takeshi's, en fait, qui était. Moi, je me souviens avoir vu ce film-là au cinéma et j'ai rarement vu ça. Hein, c'est un réalisateur qui dit fuck you, quoi, aux gens, quoi. Et qui dit fuck you aux critiques. Et les critiques lui ont fait payer.
C'est 2005, hein.
Ouais, et les critiques lui ont fait payer, hein, parce que les sorties de ses films, il fallait qu'il soit. C'est ça qui me bat toujours plus chez Kitano, c'est que Kitano, c'est un mec qui a compris que les gens attendaient de lui des choses et qu'il fallait toujours qu'il aille contre ce que les gens attendent de lui, que ce soit dans sa figure télévisuelle ou dans sa figure cinématographique. C'est au moins mystérieux, mais par contre, moi, c'est en ça que c'est un réalisateur subversif. C'est que c'est quelqu'un qui, justement, refuse de se plier à l'idée qu'il doit correspondre à nos désirs. Il correspond à ses désirs. Et après, si ses désirs ne rencontrent pas les nôtres, il n'y en a rien à carrer, en fait. Quoi. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de revendication. Mais après, j'ai bossé pas mal sur Kitano. Je suis quand même très, très fan du bonhomme. Et moi, j'ai une très grande passion pour les réalisateurs, pas maudits, mais les réalisateurs qui ne reçoivent que mépris de la critique française après avoir été adulés. Parce que ça, je trouve que c'est une forme d'hypocrisie intellectuelle que je trouve absolument incroyable en France. Où, dans les années 70, Clint Eastwood était un facho, puis dans les années 90 c'était oh mon dieu, l'heure sur la route de Madison, le meilleur réalisateur du monde, et voilà. Et je me dis putain, mais un peu de cohérence quoi, certains d'entre vous quoi, parce que tu vois, genre le masque et la plume quoi, un peu de cohérence quoi, parce que c'est
l'anoblissement, puis après,
ouais, voilà. Et ça je déteste cette prétention critique française à dire oh, tiens, tu es un artiste, non tu n'es plus un artiste, je te maudis, sors de la pièce,
tes films ne sortiront plus en France.
Et Johnny To, Choi Ark d'une certaine manière, qui a jamais été considéré comme un artiste, des gens comme Kitano, des gens comme Terry Gilliam, tous ces gens-là, enfin pour moi font partie du même club, du club des justement
le club
des
losers.
Ouais, le club des gens qui font pas un cinéma qui est comme la critique voudrait qu'il soit à un moment donné d'un truc quoi. Et moi j'ai beaucoup de respect pour ces réalisateurs-là, quand bien même justement ils peuvent justement tourner un petit peu comme c'est le cas chez Coppola ou chez Gilliam à l'autarcisme quoi. et où là évidemment ça rend leur cinéma beaucoup moins voire allégreur, et ça rend leur cinéma beaucoup moins aimable. Donc ça aussi son son envers, hein, et qui est pas très aimable, et moi je suis premier à reconnaître. Et chez Kitano il y a un peu ça aussi, hein.
Oui, mais chez Kitano
il y a quelque chose de méchant, hein, dans Takeshi's et dans Hail to the Filmmaker, il y a quelque chose de mauvais, quoi,
la trilogie Outrage est comme une trilogie,
ouais,
pour
y a
le coup,
putain de violence,
violente,
putain de la violence,
mais on sent qu'il y a une genre
mais de la violence de série B,
ouais, ouais.
C'est de la violence crado de série B, quoi, tu vois, de film d'exploit, quoi, de direct ou DVD japonais, quoi.
De vouloir vraiment tuer le plus de monde possible, ouais, dans un polar ultra violent pour faire un genre de polar de Yakuza hypertrophié, enfin ouais, une trilogie.
Tout en s'assurant que justement les critiques occidentales n'accepteront jamais de donner un prix à ce film.
Parce
que
Outrage,
il n'y aura pas la Palme d'Or pour Outrage, quoi.
Outrage,
ça, c'est sûr.
Moi je me rappelle qu'on est sorti, on en avait parlé ici à l'époque en 2010, on était assez enthousiaste justement pour cet étalage de bourrinitude.
Carrément, c'est du dentiste complètement incroyable dans ce film-là.
Et
quoi.
Puis de noirceur.
Ah bah,
mais effectivement, il avait été, en tout cas, je crois à l'époque, plus ou moins pas très bien reçu non plus, en disant oui, il fait un nouveau film de Yakuza qui est juste un étalage de violence.
Alors que non, c'est un, moi, pour moi, c'est un de ses, c'est un de ses meilleurs films. Et surtout, c'est un des plus jusqu'au boutiste dans le discours autour du genre du film de Yakuza. Parce que pour moi, Outrage, c'est vraiment le truc où il dit non, mais en fait, ces gens qu'on transforme en icônes, ce sont des abrutis. Et finalement, dans celui-là, on retrouve un peu ça aussi.
Ce côté bouffon dans
Bardo, la deuxième partie, bah, pour moi, il y a ça. C'est-à-dire que, mais voilà, voilà ce que ces gens-là se prennent au sérieux. Et en fait, c'est des clowns, en fait, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un truc derrière, qui a vraiment, où on lui a dit ah, vous faites du film de Yakuza qui célèbre les Yakuza, et en fait il a passé une bonne partie de ces dernières années à montrer que non pas du tout, en fait,
non
quoi.
Non, parce que même Sonatine c'était pas du tout,
non mais moi Annabi non plus d'ailleurs, hein, je veux dire
hyper mélancolique, ah ouais.
Oui, et puis il a pas une très grande sympathie pour les Yakuza, qui pour lui sont des abrutis, cette espèce de truc de soumission au clan qui est très intéressant, des rituels qui sont très intéressants à filmer, mais
oui, parce que les rituels c'est toujours intéressant
mais
à montrer.
Souvenons-nous de Aniki mon frère.
Oui, son film américain.
Film américain qui est d'une brutalité, mais c'est un film de dingo, hein, Nicky mon frère. Quoi.
C'est ça que j'ai vu, je pense.
Avec Outrage, c'est un des plus violents. Quoi. Moi, je me souviens d'une scène de découpage de petits doigts en gros plan sur un billard. Quoi. Oh, sinon, bon Dieu de bois. Quoi. et ça aussi, j'ai du respect pour ça. Quoi, tu vois. C'est-à-dire que le mec, on lui dit tiens, ben, voilà du pognon des États-Unis pour faire un film. Ok. Voilà, je vous fais un film qui va être PG 17, plutôt NC-17, sur certains, vous n'allez pas faire de fric avec mon film, ça je peux vous l'assurer. Et là c'est un peu pareil, hein, parce que les gens qui vont tomber là-dessus sur Amazon Prime, je ne sais pas comment ils vont recevoir le film. Enfin, à mon avis, le film va avoir des critiques catastrophiques, hein, je pense. Hein.
Ah bah c'est vraiment pour les happy few de Kitano.
Ah bah ouais, il n'y a que les gens comme nous que ça peut...
Oui, mais ça reste quand même... Enfin voilà, ça fait quand même une demi-heure qu'on en parle. Même si c'est un film mineur, même si c'est un film foutage de gueule... Ouais. Vu que ça reste un film de Kitano, ça reste toujours un film intéressant.
Plus intéressant.
Non, mais c'est bien les films de viande en ce moment-là, parce qu'ils font tous un peu un genre de bilan de leur carrière, tu vois, donc ça permet un peu de voir qui est qui.
Mais c'est un vrai film, franchement, c'est un vrai film bilan celui-là. Alors, je sais pas quels sont ses projets.
Il est encore en forme, il a que 75 ans. Hein.
Mais
c'est à la fois la récré et en même temps, je pense que
ça commence en fait.
Parce que son film précédent, Kubi, quand même, qui était un. Comme je disais tout à l'heure, toute une réflexion autour du Shambara, du cinéma de Kurosawa et tout. Il y avait aussi ces côtés un peu bouffons de ces chefs de guerre, mais dans un vrai Shambara vraiment sérieux.
Mais comme dans Zatoichi,
ultra bourrin.
Où Zatoichi, il y a des choses très drôles et dans un truc là aussi assez bourrin, quoi. Donc Kitano.
Ouais, mais parce que Zatoichi, en plus, c'est spécial parce qu'il reprend une figure vraiment mythique du cinéma japonais. Donc il faut la retravailler en la modernisant, mais en mettant. Donc que ces éléments à lui avec un truc un peu plus bouffon, avec un nouveau Zatoichi qui est blond peroxydé, avec voilà, mais qui reste un super film avec un super numéro musical à la fin,
Avec tout ce côté comédie musicale et du sang numérique à gogo.
Ouais. Tu regrettes justement qu'il ait pas fait plus de scènes de comédie musicale ou de films de comédie musicale, mais ça, c'est comme tous les réals qui veulent en faire et que personne leur file de pognon,
comme
John Woo, ça fait 35 ans qu'il veut faire une comédie musicale.
Oui, à l'évidence.
Ou Spielberg qui a attendu West Side Story pour en faire une, alors qu'il en parlait dès le début des années 80. Quoi.
Ouais. Ouais, mais ça marche plus la comédie musicale, mon pauvre monsieur.
Si, Wicked, ça a marché. Hein. Le préquel au Magicien
d'Oz. Ah oui, mais il faut que ça soit
la grande des.
Soit Les Misérables, ou un truc, faut que ce soit un truc qui a déjà marché. Quoi, tu vois.
Pas la semaine dernière, hein, il va y avoir une nouvelle version des Misérables. Hein. Mais pas chantée. Hein,
Ah oui, d'accord, française.
Ouais, avec Vincent Lindon. C'est vrai.
J'ai fait ce que j'ai pu. J'avère, j'imagine.
J'ai des fêlures. Non, en Valjean.
Ah, c'est lui qui fait Valjean. Oui. Ah, moi, tu vois, je l'aurais mis en Javert, moi, tu vois.
Non, enfin, c'est Vincent Lindon, c'est le héros.
J'ai fait ce que j'ai rendu les chandeliers.
C'est Vincent Lindon qui porte toute la douleur du monde.
J'ai fait ce que j'ai pu. Cosette.
T'as de voir ça. Hein.
Ah, grave. Grave. C'est la faute à Voltaire. Alors c'est Gavroche, qui dit ça.
C'est pas Vincent.
Mais Gavroche sera interprété par Vincent Lacoste, voilà. Oui, d'abord, ouais. J'ai décidé.
Anthony Bajon, alors c'est un petit jeune.
Ouais, voilà, c'est ça.
Raphaël Quenard.
Ah ouais, Raphaël Quenard, Ah, mais alors qui va être Javert alors du coup bon, on s'éloigne un peu du sujet, oui. Mais Takeshi Kitano justement.
Qui n'a jamais
joué Javert. Jouera en japonais.
Voilà.
Jouera Javert en japonais. Dans Les Misérables. Voilà, c'est officiel, on vous l'annonce, vous pouvez le relayer sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout une fake news.
Pas du tout, ça va être ça. Donc, Broken Rage de Takeshi Kitano, c'est n'importe quoi.
Critique, elle je retournerai pas au bagne.
À l'échelle du film.
Je retournerai pas au bagne, jamais, jamais.
Là, nous allons passer à la deuxième section, l'émission bouffonne. Non, donc, Broken Rage de Takeshi Kitano qui est disponible sur Amazon Prime. On va passer à tout autre chose et un tout autre esprit de cinéma en parlant de tuer des nazis. We're told that after the war the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. While Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialize. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies.
Vous disiez que les Juifs utilisaient le sang de bébés chrétiens pendant quoi déjà?
Bah, pendant leur cérémonie, leur rituel, leur dîner, pour qu'ils puissent conquérir le monde.
Pendant leur dîner? D'accord, très bien. Et ils le servent dans des verres, ce sang chrétien? Ils le boivent? Ou c'est plutôt en accompagnement, un peu comme une sauce qu'on verse sur un plat? Non, parce que j'ai jamais participé à ce genre de rituel, donc je suis pas au courant.
T'essaies de me faire passer pour un con?
Non, pas du tout, ça vous le faites très bien tout seul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment moi, je pourrais conquérir le monde.
Tu vois, tout ce que tu veux, c'est me provoquer, alors que j'essaie juste de répondre à ta putain de question, sale loupin.
Bon, on va s'arrêter là, ça ira comme ça. J'ai eu ma dose d'antisémitisme pour ce soir, je crois. Je remercie notre auditeur pour ce ramassis de conneries puritaines. Vous savez ce que c'est mon problème avec vous, les fanatiques, les fondamentalistes, que vous soyez catholiques, orthodoxes ou même encore du Ku Klux Klan? Vous avez tous quelque chose en commun et vous êtes trop ignares pour le voir. Vous êtes incapables de vous épanouir dans ce monde. Et du coup, votre seul recours, c'est de faire en sorte que les autres ne puissent pas être heureux non plus. C'est la raison pour laquelle on en est là. On vit dans un grand pays, mais on a encore du mal à voir plus loin que le bout de notre nez.
C'est toujours dans En attendant Godard. Sursis, là, pardon. Et donc, c'était...
oui, on parlait de Didier Bourdon.
Avec The Nazi Died, suivi donc d'un extrait de The Order de Justin Kurzel. Oui, on parlait de Didier Bourdon en disant qu'on l'aurait bien vu dans le rôle de Jean Valjean. Encore une fois.
Donc,
The Day the Nazi Died, de magnifique chanson pour annoncer donc The Order de Justin Kurzel qui est sorti lui aussi la semaine dernière sur Amazon Prime. Justin Kurzel, on le connaît, il avait mis en scène un Macbeth avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, réalisé l'adaptation de Assassin's Creed encore avec Michael Fassbender.
Oui, il est vite revenu au ciné indépendant, hein, quand, enfin oui. Au ciné plus modeste, oui, on va exactement. Dire. Il a vite compris que hop, on va messieurs dames, il a pris le chèque, il s'en est allé.
Il avait réalisé fait deux films en Australie ces dernières années. Un, c'était The True Story of the Kelly Gang, donc sur Ned Kelly. Un autre qui s'appelait Nitram, donc Martin qui se passait dans le bouche australien. Et là, donc, il fait un film based on a true story d'après le livre The Silent Brotherhood, sorti aux États-Unis d'Amérique en 1989. Donc, sur le groupe de suprémacistes néo-nazis qui a sévi dans l'Idaho entre on va dire, la période 1983-1984 et qui était donc mené par leur leader Bob Matthews, et donc c'est l'enquête qui est menée sur ce groupuscule qui commence à faire un peu n'importe quoi au moment où un enquêteur du FBI incarné par Jude Law et sa magnifique alopécie cool et sa sémillante moustache qui donc enquête sur ce gang.
Et sa belle voix grave et son bel accent américain.
Exactement.
J'ai mis un peu de temps hein, avant de le griller. Hein. Moi, il m'a fallu un peu de temps. Hein.
De quoi que c'est Jude Law ?
Ah ouais, je me suis dit, mais c'est Jude Law. C'est Jude Law. Et c'est, les 10 premières minutes, mais c'est Jude Law. Mais c'est quoi cette. Mais qu'est-ce que c'est que cet accent ? Qu'est-ce que c'est que cette moustache ?
Acting.
Ouais. Et puis en fait, il y a une scène où, notamment, une des rares scènes où il sourit, et là, j'ai vu ma confirmation, j'ai dit, ah oui, d'accord, c'est Jude Law.
Et là, t'as fait, oh Jude.
Mais j'aime bien Jude Law.
Moi aussi, j'aime beaucoup. Et donc Bob Matthews dans le film est incarné par Nicolas Hoult qu'on avait vu l'année dernière dans le dernier Clint, donc juré numéro 2
qui est partout hein, définitivement.
Et donc
Jude Law a un acolyte Tate Sheridan qui ressemble à Tom Hardy.
Oui c'est vrai, il a un peu des sous-genres de sous Tom Hardy. Tate Sheridan aussi qui vieillit bien, ce petit bonhomme là, il a déjà 20 ans de carrière. De Jeff Nichols en 2008 je crois.
Moi je le confonds toujours un peu avec l'acteur qui joue dans Ready Player One.
Ah oui, moi aussi. C'est pas lui.
Mais non.
Si.
Mais non.
On va vérifier. Bref.
Non, c'est un autre acteur. Non, c'est l'acteur qui joue aussi dans la série de Nicolas Winding Refn. Comment il s'appelle? Miles Teller.
Ah, Miles Teller, oui, c'est vrai. Voilà,
Miles Teller. Eh ben, je confonds toujours un peu les deux. Alors, ils commencent à se distinguer en vieillissant un peu.
Oui, mais ils se ressemblent un peu.
Mais ils avaient un petit peu le même type de visage.
Donc, sur cette intrigue, justement, pas très fun de sales néo-nazis qui font n'importe quoi en Amérique. Comme quoi, c'est vraiment les années 80, ça pourrait plus se passer maintenant.
Ben non.
Et donc, Kurzel déroule une enquête qui aurait été. Petit côté, on va dire, de mélange entre True Detective saison 1 et un petit côté William Friedkin, un peu justement sur cette zone grise qu'il y aurait en chacun. Et dans qui mêle en plus plusieurs d'autres formes d'influence de cinéma américain. Une notamment dont on pense, c'est Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino pour cette scène de chasse au caribou. Ou Odin, peut-être.
Odin,
comme dans le Cimino, donc. Et donc, film enquête très sec, assez bien tenu, je trouve, et plutôt étonnamment assez bien mené, parce que je ne suis pas très fan, moi, des autres films de Kurzel, que je trouve en général un peu trop maniérés, qui avaient tendance à avoir la main un peu lourde, notamment en termes de photographie, pour montrer qu'il était très fort.
Oui, moi je crois que c'est mon premier. J'ai pas vu le Macbeth, j'ai pas vu son remake de Assassin's Creed. Ouais. Alors que le Macbeth, moi quand il était sorti, ça me titillait.
C'est pas si mal.
Hein. Ouais. Mais j'avais dans mon imaginaire une vision du réal comme étant un grand formaliste, voire un maniériste, un mec qui se prenait un peu pour Stanley Kubrick. Et j'ai été finalement un peu déçu de voir que...
Ah, tu t'attendais à un truc plus flamboyant.
Voilà, un truc, je m'attendais à un truc maniériste. Mais peut-être que le sujet ne concordait pas avec cette mise en scène un petit peu flamboyante, voire carrément baroque. Du coup, passer cette mini-déception, parce que quand même, il y a des choses qui sont très intéressantes en termes de cadrage, en termes de photos, notamment l'arrivée de...
C'est le même chef-op d'ailleurs que la saison 1 de True Detective.
Ah bah ça se voit. Mais tout ce qui se fait en termes d'intérieur sur l'arrivée... Parce que tu parlais de zone grise. La zone grise, c'est vraiment Jude Law, parce que les autres personnages sont vraiment...
Les nazis sont des nazis.
Ils sont vraiment monomaniaques. Mais le personnage de Jude Law, voilà, c'est son arrivée dans le bar en clair-obscur, tout ça. Je trouve que c'est très, très bien tenu à ce niveau-là. Mais je trouve que le film est... alors, tu as cité des noms immenses. Hein, enfin, True Detective, Friedkin, Cimino. Et je trouve que le film reste reste en mode mineur. C'est bien emballé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est par moments un peu chiant. Le récit est ultra balisé. Mais alors il y a des codes, tu sais très bien qu'à 45 minutes il y a le mentor qui va arriver, après tu as la scène où Nicolas Hoult va s'en prendre au mentor, et puis après avec cette scène Freedom Never Ever, là je sais pas quoi, la Whatever Whenever, on dirait du Shakira.
J'ai trouvé pas très crédible. Alors peut-être elle a eu lieu hein, cette scène, mais moi je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé très crédible cette espèce de retournement de foule pour montrer la dimension manipulatrice du personnage. Je pense qu'il n'y a pas besoin de cette scène.
Il n'y avait pas besoin.
Une scène où le perso donc de Nicolas Hoult, Bob Matthews, retourne une salle.
Voilà.
En gros, c'est une assemblée de nazis.
On s'en fout de la théorie. Maintenant, on passe à l'action.
Mais certains sont plus modérés que d'autres et ils retournent tous les modérés nazis pour faire des nazis.
Après, avec
t'as vraiment l'impression que c'est des bœufs, quoi, les nazis. Ouais.
Avec la personnalité comment il s'appelle, de celui qui s'est passé pour un espagnol, finalement, il est mexicain, mais du coup, les flics vont le prendre pour qu'il fasse la top. Enfin, voilà, la femme, en fait, qui se dit, au final, qu'il y a un petit soupçon de... un petit soupçon de... pas de regret, mais d'amertume. Bon, voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont... très vu, trop vu peut-être. Et je trouve que c'est du coup le propos du film qui est pourtant hyper pertinent, surtout depuis l'élection de Trump. C'est comme l'histoire de Soliman. Je trouve que, à toute proportion gardée, mais je trouve que la date de sortie tombe vraiment bien par rapport au contexte géopolitique actuel et en France pour l'histoire de Soliman et du coup aux États-Unis pour The Order. Voilà. Je trouve que ça... Je trouve que le film aurait mérité mieux. Je trouve que le sujet stylistiquement, passionnant aurait mérité mieux.
Ça m'a fait un peu penser au film de Jérémy Saulnier qui est sorti.
Oui, mais c'est produit d'ailleurs par Saulnier.
Rebel Ridge.
Et les coproducteurs. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai pensé à ça. J'ai pensé un peu à Craig Zeller aussi.
Saulnier, les personnages sont tous. On en avait parlé. Ils sont tous très très bien écrits.
Le film est plus tenu parce que l'écriture elle-même des personnages est plus intéressante. Ouais. Mais tu sens qu'ils sont un peu dans une même veine. Formel, on va dire, en tout cas, de faire des films du milieu, de faire des genres de polars réalistes, quoi.
Ouais.
Il y a un peu une même, après, une même volonté.
Après, le truc, c'est que le film penche un peu du côté Mississippi Burning, en fait.
Ah oui.
Tu vois, il y a un peu ce côté, justement.
On saute Alan Parker, là.
Tu vois, pédago. Ouais. Moi, je déteste pas Mississippi Burning, mais il y a cette espèce de.
C'est peut-être même.
Cette espèce d'académisme de la narration qui rentre un peu en conflit, finalement, avec. La qualité de l'image ou de l'interprétation des acteurs qui est très bonne aussi, moi je trouve.
Oui, ça joue très très bien, il n'y a pas de problème.
Le but aussi, c'est que vu le sujet, ils se sont dit autant y aller mollo-mollo
ouais.
sur le...
Alors, mais du coup, ce manque de prise de risque, tu te dis, le film s'adresse à qui ? Parce que c'est quand même un film mi-bon mi-con ou mou du genou ou ce que vous voulez, mais du coup il s'adresse à qui ?
En fait, c'est que c'est pas très. Moi, je trouve que les analogies avec la période contemporaine, moi je trouve que c'est pas ce qui est le plus habile en termes d'écriture dans ce film-là.
Oui. Il y a le texte final, il y a le carton final.
Là aussi, en fait, on a l'impression que le scénariste en fait a un peu peur qu'on comprenne pas bien. Et en fait, je pense que le film est destiné aux Américains. C'est-à-dire que nous Européens, en fait, en tout cas. Quelque part, il y a une... Et je pense que c'est lié au sujet, parce qu'en fait, il y a un truc quand même dans ce film qui est assez bien montré, même si c'est pas le sujet, c'est plutôt autour du sujet que le sujet lui-même, c'est le fait que le nazisme aux États-Unis, aussi surprenant que ça puisse paraître pour nous, en fait, il y a une espèce de logique sur pourquoi est-ce qu'on trouve ça aux États-Unis, parce qu'en fait, les États-Unis, c'est le pays qui n'a connu ni le nazisme, ni le communisme. Et donc, ils vivent dans des fantasmes par rapport aux idéologies. C'est-à-dire que l'idéologie américaine, c'est l'idéologie libérale. Et l'idéologie fasciste, de la même manière finalement que l'idéologie communiste, même si elle a été éradiquée dans les années 50, mais relève finalement d'une vision fantasmée en fait, de l'idéologie. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais connu ces idéologies mises en pratique dans des pays. Donc en fait, le côté hyper fanatique en fait, avec cette espèce de communauté où c'est renforcé aussi par le système, par les amendements de la Constitution sur la liberté d'expression, sur la possession des armes, etc., etc., ne font qu'encourager en fait ce côté justement presque sectaire au sens propre du terme du nazisme, c'est-à-dire que c'est même pas un parti politique en fait, c'est une secte religieuse, c'est-à-dire des gens qui en fait fantasment Adolf Hitler. Dont ils n'ont jamais eu finalement à subir, eux,
les conséquences.
Leurs parents peut-être, mais pas eux, en fait.
Il y a le personnage du mentor, justement, qui illustre ce que tu viens de dire. Mais en fait, ce mentor-là est très vite évacué du récit.
Le mentor nazi. Hein.
Oui. Pour mettre en place un Nicolas Hoult, qu'on essaye de faire passer justement pour un espèce de nouveau prêtre évangélico-nazi, mais il y a cette scène ridicule Shakira qui fait que du coup ça baisse un peu, et puis au final, à la fin, le chef se transforme en en espèce de petit braqueur, enfin de petit braqueur à quelques millions de dollars, mais de braqueur en fait, de convoi ou qui fait sauter des cinémas base, porno.
Ou qui mène l'enquête parce que les nazis se mettaient à faire des braquages.
Voilà, pour un trésor de guerre.
Pour leur ordre.
Pour un trésor de guerre.
D'ailleurs, il y a une scène, moi je trouve que.
Comme le reste,
c'est, en effet, il y a une scène de poursuite sur une autoroute qui est plutôt pas mal. Moi, je trouve la scène avec le fourgon, là,
qui est bien. C'est plutôt bien.
Elles sont chouettes, elles sont
sèches. Elles sont un peu sèches, elles sont pas mal.
Ouais, tu t'as l'impression que le film passe vraiment à côté. En fait, je suis d'accord avec toi.
Moi, je pense que, ouais, le problème principal du film, en fait, c'est que selon que t'es un Européen ou un Américain, en fait, je pense que t'as pas la même vision. C'est-à-dire que nous, on sait, je veux dire, historiquement et culturellement, on sait que les nazis c'est des sales types.
Oui, enfin, c'est
pas. On sait que c'est des sales types.
N'empêche qu'ils reviennent partout en Europe quand même. Hein.
Oui, mais on sait.
C'est pire.
Les Américains, ils ont au moins quelque part le bénéfice de la candeur et de la naïveté.
Et de l'ignorance.
Bon, ce qui n'est pas le cas des personnages hein, qui sont d'affreuses ordures, ouais. Mais très bon père de famille par ailleurs. Hein, bon père de famille. Avec des enfants à côté, quoi, tu vois, avec des maîtresses, des machins, quoi, tu vois. Mais,
oui, je ne mettrais pas un gamin à mon gamin de 5 ans.
Alors justement, c'est là où je trouve que le double portrait Nicolas Hoult Jude Law est intéressant. C'est que. Et ça, peut-être qu'ils auraient peut-être dû alléger un peu justement sur les analogies politiques, qui à mon avis parlent d'elles-mêmes dans le film, et peut-être creuser un peu plus justement ce rapport de gémellité entre les deux, ou de gémellité inversée.
Le sang contre sang entre les deux personnages.
Ouais, parce que le classique de polar où le flic qui poursuit.
Ou le méchant et le double inversé. Voilà. Parce qu'en fait, le méchant a tout ce que Jude Law n'a pas. C'est-à-dire qu'il a une femme, il a deux femmes, il a des enfants, il a une maison. Jude Law, c'est un mec qui est rincé. On sent qu'il voit plus ses gamines. On sait pas trop.
Il a pas sa femme au téléphone.
C'est un mec qui vit dans une espèce de misère affective complètement incroyable, alors que l'autre, et c'est là l'injustice presque, hein, c'est que l'autre vit dans une entouré d'une très grande affection de ses proches. Et
un
c'est
genre là, de rêve américain. Ouais,
et c'est là où je trouve que le personnage de Jude Law justement se rachète. Il se rachète pas en tuant le nazi. Il se rachète en essayant de le sauver. Et ça, je trouve que ça, c'est une dimension qui est assez intéressante à l'intérieur du film. C'est-à-dire que quelque part, malgré qu'il ait toutes les raisons de souhaiter la destruction de ce type pour des raisons à la fois politiques et pour des raisons personnelles, puisque finalement, il représente tout ce dont lui-même est privé. Au lieu de répondre à une injustice par une autre injustice, il va répondre à une injustice par une démonstration d'altruisme. Et ça a beau être assez discret dans le film, bah, je trouve que cet aspect-là du personnage, moi j'ai trouvé assez intéressant dans la scène de la fin là, avec l'incendie dans la Marac. Et moi j'ai trouvé j'ai été un peu surpris.
Il faut noter
je me suis dit
il y a un nœud dramatique,
voilà, il se passe quelque chose entre eux en fait, malgré tout.
Et il faut noter également le design sonore du film, et notamment des scènes d'action où en fait on n'est pas du tout dans le name dropping des années 80, de groupes des années 80, et en fait je trouve que la bande son qui est écrite, me semble-t-il, par un membre, par son frère.
Ouais, son frère, Jed Kurzel.
Je trouve qu'elle est hyper. Du coup, elle met bien l'intention, les scènes de braquage ou la scène de la maison, la scène finale de la maison. Je trouve qu'il y a un contrepoint intéressant. Par contre, moi, en termes de mise en scène, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de mise en scène, si on a dit que c'était bien tenu, que les scènes d'action étaient plutôt bien
faites, ça reste assez classique.
Par contre, il y a quelque chose qui, moi, m'a vraiment frappé et je trouve hyper intéressant. Et en effet, un plan ou des plans valent mieux que 1000 discours, c'est la manière dont il a de cadrer généralement les arrivées de personnes à travers des portières, à travers des vitres. Ça se voit le premier entretien en fait, entre les deux.
Même l'arrivée de Jude Law, où on voit les caméras sont accrochées les côtés de la voiture.
T'as l'arrivée de Jude Law, par exemple, dans le bar. T'as la première conversation après que Jude Law ait refusé de tuer le daim, où il va voir en fait Nicolas Hoult et il y a une conversation dans une espèce de parking, dans le pick-up, au niveau du pick-up.
Oui,
il y a l'arrivée
du
FBI chez les parents d'un des mecs qui est porté disparu, et en fait tu te rends compte en fait que voilà, le mec est devenu complètement taré à ce niveau-là. Et je trouve que en termes de communauté et de destruction de la communauté américaine, rien que par des plans, il arrive à faire ressentir quelque chose. Du coup, je reviens encore toujours sur cette Shakira là, mais elle est cheveu sur la soupe.
En fait, cette scène,
parce que par sa mise en scène, il arrive à dire énormément de choses.
Mais c'est justement, pour moi, c'est une scène qui est superflue, mais c'est une scène de scénario superflue en fait.
Ouais, ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'il aurait pu. Bon, pourquoi est-ce qu'il l'a pas coupé, je ne sais pas.
C'est écrit par le scénariste de Cri de Troyes et du biopic de Bob Marley qui est sorti l'année dernière.
Ouais, bah, donc, bon, bah,
un truc
ouais.
très didactique.
Mais alors que, ouais, mais tu vois, alors que à l'inverse, et justement, c'est peut-être justement dans les moments où le scénario le laisse un peu plus libre. Par exemple, quand Jude Law va annoncer, alors on spoil hein, joyeusement, hein, mais quand Jude Law va annoncer la mort de Ty Sheridan.
Ty Sheridan qui joue dans Ready Player One. Hein.
Donc c'est, ah, bien, c'est bien le même acteur.
Oui, donc j'avais raison. C'est le même acteur. Non, comme quoi, ouais. C'est comme étonnant qu'il ait la même tête. Hein.
Le scénario, c'est sûr. Ouais, non, mais je te crois, mais tu vois, comme quoi je confonds définitivement ces deux acteurs. mais sont-ils peut-être sont-ils une même personne ?
Oui, peut-être.
Pas dire. Est-ce que vous les avez On ne sait pas, peut-être s'agit-il d'une. Voilà, exactement. Moi, je ne les ai jamais vus dans une même pièce. Mais ouais, je ne sais plus ce que je disais. Oui, la scène où il va voir la veuve de Ty Sheridan, hashtag Miles Teller, et où il va. Et voilà. Et où il n'y a pas de dialogue.
Oui, c'est une très belle scène.
Voilà, elle est bien cette scène parce que la fille arrive, elle voit sur la tronche de Jude Law. Pareil, quand Ty Sheridan il meurt, la réaction de Jude Law, elle est bien, moi je trouve.
Parce que il joue la sobriété.
Ouais, parce que tu te dis putain, il a déjà connu ça. Tu sais pas trop en fait pourquoi. Tu dis putain, merde, c'est de ma faute. J'ai entraîné ce jeune type qui lui aussi est père de famille, qui est lui aussi a ce que l'autre n'a pas. Et voilà, enfin je trouve qu'il y a
des choses, hein, il y a quand même de quoi manger
derrière.
Oui,
un film finalement assez classique, il y a quand même, je trouve, à la fois une bonne maîtrise des scènes d'action, de voilà, et je trouve dans certains moments de personnage justement des choses qui se passent, une direction d'acteur que je trouvais pas mal.
Décor naturel incroyable,
ouais, le décor sont
bien. Tourné au Canada, mais
au sud du Canada, mais c'est à côté,
incroyable, le gestion de la montagne
et
pareil,
et des plans au début où il va sur un bord d'un étang où ça fait carrément penser à The Deer Hunter.
Et même quand ils sont en Californie, la route, hein, tu la vois pas, hein, la piste, la Gold Rush, là, tu la vois pas du tout. La gestion des montagnes est hyper bien, gestion de la forêt hyper bien foutue également.
Exactement.
Donc The Order de Justin Kerzel, disponible.
Ça vaut le coup de regarder quand même.
Disponible sur Amazon. On va passer au coup de cœur.
C'est de la merde. C'est de la merde.
Je voudrais que tout le monde s'imprègne.
Merde.
Tout le monde
s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes.
Les coups de cœur carrément fleuraient.
Alors moi, les coups de cœur, ça va être un film d'animation français sorti en 2020. C'est Le Sommet des Dieux. De
2020 déjà ?
Ouais, de Patrick Imbert. Film qui donne littéralement le vertige. Vertige, bien entendu, lié à la pratique de ce sport de taré qui est l'alpinisme. Vertige lié également aux doutes humains qui sont admirablement bien retranscrits. Et finalement, vertige d'une qualité d'un cinéma d'animation français vraiment au top niveau.
J'ai souvenir d'une scène dans les Alpes avec des espèces de
trucs,
où il reste suspendu en l'air et tout. Il y a
très
vraiment de suspense vachement bien. Quoi,
en contrepoint de ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai maté le truc de Inoxtag, Kaizen, voilà, en accéléré, bien entendu, je ne vous le cache pas.
2h40, putain.
Préférer Le Sommet des Dieux.
Alors que tu aurais pu regarder les films sur la montagne de Werner Herzog sur Arte, quand même autre chose.
Non, mais sur Arte, il y a le film dont on a parlé à propos de Leni Riefenstahl, qui s'appelle
La Montagne Bleue.
La Montagne Bleue.
Ah oui.
Voilà. Il était sur Arte il n'y a pas si longtemps, peut-être y est-il encore.
Mais parce que c'est une chaîne de nazis.
Non, d'allemand.
Ah bah oui.
Merci Thibaut. Donc docteur.
La boucle est bouclée.
Vous avez la parole.
Alors moi, ce sera une BD, ce sera Le Génie des Alpages, BD des années 70, écrite par Fmur, qui était une BD qui me plaisait beaucoup quand j'étais enfant, parce que c'était pas une BD pour les enfants. Et du coup, il y avait plein de trucs bizarres et de blagues cheloues et de trucs qui se passaient à l'arrière-plan, comme chez Gottlieb. Non, pas trop, mais de temps en temps un peu, mais pas trop. Il y a un peu de nichons, mais sinon ça va. Mais c'est surtout qu'il y a plein de trucs à l'arrière-plan. En fait, c'est un peu comme les BD de Gottlieb. Il y a plein de petits gags, il y a plein de sous-histoires en fait qui se déroulent dans les arrière-plans. Et donc du coup, c'est des BD assez
comédicales.
Assez curieuses, assez absurdes. voilà. Et donc je suis en train d'en relire quelques tomes et c'est toujours
ça
aussi.
Ça vous fait rire le soir au cabinet.
C'est toujours aussi sympathique. Hein. C'est toujours aussi sympathique.
Bien. Merci. Alors moi, sinon, ce sera Le Prédicateur et The Apostle, le premier long métrage, je crois, réalisé par Robert Duval.
Ouais, qui est bien.
1997, film
pas vu depuis.
Magnifique.
Ouais, c'est un super film.
Bouleversant, hein. Où Robert Duval est on fire dans le rôle donc du prédicateur. Avec aussi un tout jeune Walton Goggins qui traînait par là.
Ah, oui.
Et une musique absolument magnifique de David Mansfield. C'était vraiment une très très belle découverte.
Le prédicateur, c'était bien ça. Ouais,
exactement. Ça. Margot.
Ce sera la saison 2 de Bref, tout simplement.
Ah oui, qui est sortie il y a deux semaines.
Il y a deux semaines. Donc, voilà.
Une série faite par des vieux, mais avec plein de youtubeurs.
Non, ça...
Alors moi, on m'a dit qu'il y avait plein de youtubeurs qui faisaient des petits clips. Il y avait plein de copains à lui. Ah non, mais moi, je suis incapable de les reconnaître. Moi, je reconnaîtrais Alexandre Assier et Jean-Paul Rouve, hein, c'est tout. Hein.
Il y a les deux, ouais, ils sont là, mais Ken Kojandi, il a 42 ans, donc il n'est pas.
C'est un quadra, du coup.
Oui, mais
c'est plus un jeune.
C'est un vieux, donc, du coup. Bah si, à 40 ans, c'est fini. Tu sais bien que c'est fini, mais tu ne le sais pas encore, mais nous, on sait.
C'est pas parce que tu as fait tes 46 ans hier.
Exactement.
Tout le monde n'est pas. Dans ta situation. Ouais.
Et je vais me faire une tisane ce soir en rentrant.
Donc merci Margot.
Je vais continuer mon tricot.
Merci messieurs, merci Margot. On se retrouve la semaine prochaine, prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir, salut les vieux.
Salut. Ciao.
Bonsoir.
Hänschen klein.